Dans cette troisième heure, il y a Paul Oud qui va venir nous parler des derniers moments de Jamal Khashoggi. Là, il y a encore des informations qui sont sorties en fin de semaine. C'est épouvantable ce qui lui est arrivé, le pauvre. Et ce qui a transpiré de ces derniers moments a été à nouveau confirmé, là, y compris l'histoire de la scie. Loïc Tassé va nous parler évidemment de ce qui se passe en France parce que là, il y a le président Macron qui va s'adresser à la France à 14h notre heure. Et donc, je dois vous dire qu'à 14h45, pendant l'émission, donc, on va aller rejoindre Fabrice de Pierrebourg qui va avoir écouté le président Macron et donc il va pouvoir nous en faire un résumé. On va aussi prendre vos appels dans un instant pour vous demander comment est-ce que vous allez comment vous allez vivre avec le stress du temps des fêtes. Est-ce que c'est stressant pour vous? Est-ce que c'est un moment de détente, de bonheur? Peut-être un peu des deux. Peut-être aller chercher quelques idées sur vos trucs pour rendre ça plus agréable puis en sortir un peu moins épuisé. Mais d'abord, les cold cases. Les cas de meurtre non résolus, il y a quand même, écoutez, j'étais surpris, là, 750 dossiers non résolus à la Sûreté du Québec. 750 dossiers de personnes retrouvées mortes, assassinées, dont on n'a pas retrouvé les coupables. Et donc, la Sûreté du Québec a décidé récemment, c'est TVA qui nous l'apprenait, de remettre sur la pile 16 dossiers non résolus. Et pour savoir un peu ce que ça implique de prendre un dossier qui remonte à 30, 40, 50 ans, un dossier de meurtre, hein, puis de le réactiver, ça veut dire quoi? Qui de mieux que Jean-François Brochu, qui a travaillé de nombreuses années au crime contre la personne, justement, qui a été enquêteur à la Sûreté, qui est maintenant expert en affaires policières. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Jean-François, d'abord, dites-nous, là, pourquoi on décide, sur ces 750 cas, de réactiver ces 16 cas en particulier, là. Puis il y en a de toutes sortes, là, je ne vais pas passer au travers, mais dans certains cas, c'est un monsieur qui a été retrouvé mort dans sa résidence. Peut-être qu'on avait essayé de le voler, c'est pas clair. Quelqu'un d'autre qui est parti à un moment donné, on ne l'a jamais retrouvé. Il ne s'est jamais rendu à destination. Il y a plusieurs personnes, visiblement, que c'est des gens qui ont été tirés dans le cadre de règlement de compte du crime organisé. Mais pourquoi ces cas et pas les autres?
Bien, c'est-à-dire que ces 16 cas-là là, dont on parle aujourd'hui dans le journal TVA, c'est que ce sont des cas qui viennent d'être rendus publics. C'est-à-dire que ce sont des cas qui ont été regardés par l'équipe. L'équipe Bernard, là, elle a commencé en 2004. Mmh. En 2004, on a, à la Sûreté du Québec, ils ont créé ça, une équipe qui allait s'occuper des, entre guillemets, les cold cases, exclusivement. Donc, des enquêteurs, généralement, qui ont de l'expérience, puis qui vont reprendre de vieux dossiers d'enquête non solutionnés. D'accord? En 2004, j'étais là. On a récupéré les dossiers qui étaient à la Sûreté du Québec, mais qui étaient dans tous les districts, parce qu'il faut se rappeler qu'à ce moment-là, à la Sûreté, les homicides étaient traités par des escouades de crimes majeurs dans chacune des régions, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un bureau qui est situé à Montréal avec une antenne satellite à Québec. Mais donc, à ce moment-là, ça se faisait dans chacun des districts. Fait qu'il a fallu récupérer tous ces dossiers-là, et on a tous fait un premier, si on veut, survey de chacun de ces dossiers-là, en les qualifiant, en leur donnant un qualificatif, là, à savoir quelles étaient les chances de succès et les moyens d'enquête possibles dans ces dossiers-là. Ça fait qu'on a fait ça en 2004, 2005, 2006. Et effectivement, on tourne autour de 700-800 dossiers qui ont été répertoriés. Là-dedans, Bernard, il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont jamais été retrouvés, qui sont disparus, qui n'ont jamais été retrouvés, dont on pense qu'ils ont été assassinés.
Ah, OK.
Mais c'est pas tout le temps des certitudes.
OK.
Et donc, c'est ça. Alors, donc, ces dossiers-là sont revus par présentement à peu près une trentaine d'enquêteurs, là, tant à Montréal qu'à Québec. Oui. Ça, c'est récent. Québec, il y a une équipe maintenant.
Oui.
Et les gars, ben, ce qu'ils font, ce que les gars, les filles, ce qu'ils doivent faire, c'est revoir ces dossiers-là. Puis, écoute, déjà, il y en a quelques-uns qui ont été réglés au cours des dernières années, Bernard. On se rappellera, à ne serait-ce que de Sonia Raymond, là, dont le corps avait été retrouvé sur une plage de la Gaspésie.
Oui.
Et ce dossier-là avait été repris par, justement, cette équipe-là et a été réglé, là. Ça amenait une sentence de 25 ans pour son meurtrier. Donc,
lui, c'est le gars là qui c'était, comment vous appelez ça, une opération
Mr. Big.
Donc, vous créez un scénario et vous réussissez à aller obtenir des aveux en l'approchant, puis en faisant
en lui faisant croire, en fait. On le fait jouer dans les gars, les spécialistes Le font jouer dans un film.
Ouais,
Il croit à l'affaire et finalement, il fait ses aveux.
Exact.
Ça, c'est une méthode qui existe depuis nombreuses années, qui a été mise au point par la GRC dans l'Ouest canadien.
D'accord.
Maintenant, il y a d'autres dossiers qui ont été menés. Par exemple, James Dubé, le meurtre de M. James Dubé à Rimouski, une enquête qui a été menée par les gens de Québec et les gens de Montréal et qui avait mené également la condamnation de sa conjointe pour meurtre. Ça, c'était une histoire, une enquête de façon régulière. Donc, il y a plusieurs moyens de venir à bout de ces enquêtes-là parce que, Bernard, ne serait-ce que, puis pour en nommer juste une technique, il y en a plusieurs, mais pour en nommer juste une, la criminalistique, l'ADN. Mais l'ADN, ça a été découvert dans les années 50, on le sait, mais son utilisation en matière de justice a commencé activement dans les années 90 seulement, ce qui est quand même assez récent. Puis même là, Bernard, ça prenait des quantités importantes de sang ou de liquide, de salive ou de liquide corporel, puis pour obtenir des profils génétiques. Puis on n'était pas capable de le faire avec un poil ou un cheveu. Aujourd'hui, depuis bien plusieurs années, là, mais donc on est capable aujourd'hui. Fait que quand on remonte dans ces dossiers-là, Bernard, que les enquêteurs regardent des dossiers des années 80, 85, bon, ben peut-être qu'à ces moments-là, sur la scène de crime, parce que c'est la première chose qu'on va examiner, qu'il y avait eu un poil ou une substance génétique qui avait été saisie, mais à ce moment-là, dont on ne pouvait à peu près rien sortir, ou qu'on pouvait avoir un groupe sanguin, mais pas d'autre chose, bien aujourd'hui, si cet exhibit-là existe toujours, on le fait revoir, et on peut sortir un ADN et donc identifier une personne. Pour autant qu'il soit lui qu'on ait un élément comparatif, là, qui a été condamné, puis qu'on ait un ADN. Si on a un suspect dans le dossier, bien on peut de différentes façons récupérer l'ADN de cette personne-là puis pouvoir le comparer avec ce qui avait été trouvé à ce moment-là sur la scène de crime. Donc,
d'accord,
c'est pour ça qu'il y a un travail de moine qui doit se faire. C'est long, mais on peut s'attendre c'est assez récent, cette équipe-là, donc on peut s'attendre dans les prochains mois, prochaines années, à des solutions dans ces dossiers-là.
Tu nous as parlé du cas de Mme Raymond à Maria, si je me rappelle bien, c'était à Maria.
Uh-huh.
Mettons un cas là, dont on n'a pas beaucoup entendu parler et dont tu sais là que tu sais dont tu as eu connaissance ou tu sais quelque chose là qui pourrait nous montrer que parfois la patience peut être récompensée.
Ben on a un cas dont on a entendu parler, Guylaine Potvin, Jonquière, qui avait été retrouvée assassinée, dont on a l'ADN de son assassin. Il y a un individu qui a été tué dans son domicile, dont le nom m'échappe, là, mais à Val-Bélair, dont sur la scène de crime, on a un élément que je ne nommerai pas ici, mais qu'on a sur la scène de crime un élément qui éventuellement va pouvoir permettre aux policiers, aux enquêteurs, à partir du moment où ils vont être capables d'identifier un suspect, vont être capables de faire la preuve que c'est lui qui était là, cet individu-là était là sur les lieux du crime au moment du crime. Il y a certains dossiers dont je me souviens, Bernard, là, qui me viennent vite parce que en mémoire, que c'est une question de temps. Puis en les revoyant aussi, avec les nouvelles façons de faire. Puis souvent aussi, il ne faut pas oublier que les situations de copains, d'amis, de conjoints, conjointes, ça change, ça évolue aussi. Et il y a des dossiers qui, au moment, par exemple, du crime, de la commission du crime, quelqu'un peut avoir accepté de fournir un alibi à un accusé, à un suspect. Puis aujourd'hui, ben, si on va le revoir, il peut peut-être être enclin à s'asseoir et dire, ben, je vous ai menti à ce moment-là parce que, par exemple, il n'était pas avec moi ou il s'est élevé cette nuit-là, il avait quitté la maison. Souvent, ça va être un élément comme ça qui manque dans le dossier, un casse-tête, un morceau dans le casse-tête qui va permettre justement d'identifier positivement un accusé. Donc, en revoyant des témoins, des fois plusieurs années plus tard, leur sympathie envers la personne qu'ils ont protégée à ce moment-là est peut-être plus là. T'sais? Puis à ce moment-là, ça te permet de développer un nouveau témoignage.
Évidemment, à ce moment-là, c'est à la justice d'apprécier la sincérité des révélations.
Ah, la bonne question. Puis ben, c'est bon que tu soulèves ce point-là parce que c'est pas tout de dire, d'affirmer quelque chose. Les enquêteurs, à ce moment-là, se doivent de faire un travail de corroboration. Un travail de validation, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le dis, quand on va apporter cette preuve-là devant le tribunal, elle pourrait être facilement contestée par un avocat de la défense, mais si on est capable d'ajouter des éléments corroboratifs à la déclaration de ce témoin-là, ben là, c'est une autre histoire.
Qu'est-ce que... Tu sais, tu parlais là, de par exemple, de matériel qu'on a pu recueillir sur la scène du crime. On s'entend que les méthodes d'enquête dans les années 60-70 n'étaient pas raffinées comme c'était le cas aujourd'hui.
Ça, fait.
Ça doit être parfois difficile de faire la preuve qu'il n'y a pas eu manipulation, par exemple, de certains indices qui ont été retrouvés sur le lieu du crime. Tu sais, tu retrouves ça dans des vieux dossiers papier qui remontent aux années 70. Il y a des cheveux qui sont collés sur un bout de papier. Ça doit pas être évident tout le temps, là.
Ben, c'est ça. Est-ce que c'est applicable aujourd'hui? Ça, c'est une autre question que tu poses qui est excellente. C'est-à-dire que c'est effectivement, parce que non seulement la façon de prélever les exhibits dans les années 80, si on veut, moi, j'ai commencé aux enquêtes criminelles en 82. Pardon, puis je peux dire que, puis j'ai évolué là-dedans pendant les années qui ont suivi, les 33 ans qui ont suivi, puis j'ai vu l'évolution de ça. J'ai vu la façon de faire évoluer, se faire affiner. J'ai vu aussi les policiers beaucoup mieux formés que dans le temps. Quand on a commencé à faire des enquêtes criminelles, les équipes aujourd'hui, la façon de faire, c'est complètement différent. Mais effectivement, il y a des éléments qu'on peut retrouver dans des dossiers ou qu'on peut retrouver au laboratoire de sciences judiciaires, de médecine légale, quand on est chanceux, dans des dossiers des années 80 qui sont encore là, qui ont été, dans certains cas, très bien conservés. Dans d'autres, c'est plus litigieux, puis ça peut soulever une défense. Mais effectivement, c'est un autre point qu'il faut sous-peser lorsque on examine ces dossiers-là.
Et jamais oublier pourquoi on le fait ultimement, Jean-François.
J'ai rencontré des enquêteurs des crimes contre la personne dernièrement, puis encore une fois, c'est ce qu'on parlait, c'est leur travail, ils ne le font pas pour leur victime. Hein. Leur victime, elle est décédée, ça ne lui fait plus rien. Mais c'est pour les survivants, c'est pour les familles. Puis c'est sûr que des familles qui, 15, 20 ans plus tard, se souviennent encore qu'ils ont perdu un enfant ou un frère ou une sœur ou un conjoint, puis ça les fatigue encore, puis c'est encore difficile, puis effectivement, c'est pour ces gens-là que... Puis ça leur donne espoir, hein, le fait qu'ils savent que 30 enquêteurs ne font que ça. Présentement, là, ils ne font que ça. À la SQ, comme je te dis, je les ai rencontrés dernièrement, là, puis ils ne font que ça, revoir ces dossiers-là. Puis s'il y a une petite possibilité qu'il y a une petite porte s'en trouve, bien, ils essayent essayer d'aller jusqu'à la solution.
Absolument. Jean-François Brochu, ex-sergent à la Sûreté du Québec, notamment au crime contre la personne. Merci, Jean-François.
Faites bienvenue. Bonne journée.
Salut. Dans un instant, comment survivre à la période des fêtes? Là, on est dedans, là. On est dans un party, puis tout, là. Et puis, on s'en va progressivement vers Noël. Fait qu'on va avoir une petite entrevue. Puis, si j'ai un petit peu de temps, j'aimerais ça que vous m'appeliez pour me dire comment vous vous préparez aux fêtes, là, pour vous assurer là, que tout se passe bien, puis pour diminuer les moments stressants, puis augmenter les moments heureux.